Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'ajouterais même qui vous raconte tous les cinémas, car chaque semaine, ce sont des films très différents qui sortent en salle. Et nous, on aime cette diversité du cinéma français et international. Dans quelques instants, je vous propose donc de fêter un anniversaire, celui de l'un de nos derniers monstres sacrés, une icône, le dernier géant, le dernier héros, le dernier cow-boy. C'est Clint Eastwood qui fête ses plus de 60 ans de carrière devant et derrière la caméra. Alors à l'occasion de la sortie cette semaine de son nouveau film, Cry Macho, nous nous replongerons dans la carrière de Clint et ses thèmes de prédilection. Didier Alouche sera là, évidemment, pour son JT d'Hollywood. Et puis à 14h20, mon invité est un acteur de grand talent, 34 ans de carrière, un prix d'interprétation à Cannes, un César, des rôles enchaînés comme un sans faute, des réalisateurs avec lesquels il a tourné plusieurs fois. Il est l'acteur préféré des figurants. Il a la réputation d'être un mec sympa, selon Xavier Beauvoir ou encore Emmanuel Berco. C'est Benoît Magimel qui sera dans Clap. Nous reviendrons sur la sortie du film Amant de Nicole Garcia et bien sûr, nous évoquerons ensemble les films de sa vie. Enfin, en dernière partie d'émission, en compagnie de mes critiques, je vous parlerai des sorties incontournables de la semaine comme Aline, A Good Man ou encore Trépiani. Voilà pour le programme de votre Clap qui démarre maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Alors comme chaque samedi, on démarre cette émission avec l'actualité du cinéma. Et c'est vrai que l'événement cette semaine, c'est quand même la sortie du dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho. Clint Eastwood, véritable icône, monstre sacré, 65 ans de carrière, rendez-vous compte, 13 Oscars, 150 récompenses, 12 cow-boys interprétés et surtout à 91 ans, l'une de nos dernières idoles. Sachez d'ailleurs qu'il fait encore du ski, c'est quand même incroyable. On a l'impression qu'il est irréel, Clint Eastwood. Alors, la sortie de Cry Macho, son dernier film, nous permet de nous replonger dans cette carrière hors du commun, une carrière démarrée par le petit écran. Il était acteur de séries télé telles que Maverick ou Rawhide. Et puis, c'est avec le réalisateur italien Sergio Leone que Clint a pu sculpter son personnage de héros solitaire pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, ou encore le bon, la brute et le truand. Et puis par la suite, il n'a cessé de nous faire réfléchir, de nous faire rêver, de nous faire voyager, de l'inspecteur Harry à l'homme des hautes plaines, en passant par Impitoyable, Mystic River, Lettre d'Iwo Jima, La Mule, American Sniper, Million Dollar Baby sur la route de Madison, ou encore Gran Torino.
Je te préviens, le vieux, fais pas chier.
C'est sourd, j'ai dit foutez le camp de chez moi.
Mais t'es chelou, l'ancêtre, allez, vas-y, va te coucher.
Je t'explose ta tronche de citron pressé, et après je rentre chez moi pour rompiller comme un bébé. Compte là-dessus. En Corée, les enfoirés de Niakoué de ton espèce, on les empilait pour s'en faire des remparts.
Qu'il soit devant ou derrière la caméra, Clint, le héros solitaire, a toujours su imposer son style et ses thématiques de prédilection. Une certaine idée de l'Amérique, du rêve américain, l'importance de la transmission et la rédemption. Et puis toujours les luttes contre les injustices du système. Dans Cry Macho, il continue d'explorer ce mythe du héros solitaire avec cette thématique de la rédemption, en incarnant Mike Milo, star déchu du rodéo, hanté par son passé qui doit se rendre au Mexique pour trouver un adolescent et le ramener au Texas. Il va se retrouver seul face à la pègre mexicaine et la police.
Tu me dois beaucoup, Mike, et tu m'as donné ta parole. On revient pas sur sa parole. Mon fils, Raphaël, il a des ennuis. Je veux le faire sortir du Mexique.
Tu veux que j'aille kidnapper ton môme ?
S'il te plaît, ramène-le.
Allez, Rafo, tu peux sortir maintenant. Je suis un ami de la famille.
Touche-moi, j'étais démoli, grand-père.
Nom de Dieu.
Alors avec Cry Macho, Eastwood fait donc ressurgir du passé le cow-boy qu'il incarnait dans les westerns de Sergio Leone, puis dans ses propres films, L'Homme des Hautes Plaines en 1973, Pale Rider en 1985, ou encore Impitoyable en 1992.
J'aimais bien la relation, alors j'ai profité du fait que le gars était un peu déprimé et qu'il ait une chance de reprendre sa vie en main.
Et puis au-delà de cette figure mythique du cow-boy, le héros eastwoodien se distingue par le combat d'un individu, homme ou femme d'ailleurs, face à un groupe ou des institutions ou encore des préjugés. On se souvient du vieux journaliste de jugé coupable qui tente de faire innocenter un condamné à mort, ou encore cette mère courage interprétée par Angelina Jolie qui, dans L'Échange, se bat contre la corruption et les mensonges des autorités pour récupérer son fils qui a été enlevé.
Ce n'est pas mon fils.
Il vient de passer 5 mois éprouvants, il a maigri, il a changé.
Mais si c'était mon fils, je le saurais.
Madame Collins, écoutez-moi, je comprends. Vous êtes en proie à quelques doutes et il n'y a rien d'étonnant.
Non.
Les garçons à cet âge-là, ça change à toute vitesse. Nous en avons tenu compte dans notre enquête et il n'y a aucune hésitation à avoir. Il s'agit de votre fils.
Non, ce n'est pas Walter.
Clint Eastwood va même plus loin dernièrement dans ses œuvres. Il s'interroge, et si la réalité fabriquait plus de héros que le cinéma hollywoodien ? Question posée d'ailleurs quand il est allé chercher des hommes ordinaires comme le capitaine Sully ou Richard Jewell. Idée qu'il creusera aussi de façon ultime dans le 15h17 pour Paris en castant carrément les acteurs principaux, les vrais protagonistes de l'attentat du Thalys.
Monsieur ? Tenez.
Merci.
Je vous en prie.
Regarde bébé canette, Spencer.
Alec, ferme-la, s'il te plaît.
Regarde.
Alors, il y a tant à dire sur Clint Eastwood. Je vous invite, pour en savoir plus, à découvrir notre podcast hors-série Clint, le dernier héros, dans lequel nous développons toutes ces thématiques propres au cinéma d'Eastwood. Et puis, si vous êtes fan de Clint, sachez qu'un coffret signature sur son immense carrière de 1958 à 2019 est disponible. Un coffret qui contient tous les films de Clint, devant et derrière la caméra, mais aussi des documentaires inédits sur ce monstre sacré qui reviennent sur son immense carrière et ses casquettes de réalisateur et producteur indépendant. Parce que c'est vraiment ça, Clint, une personnalité passionnante, un homme intimidant de par sa grande taille d'ailleurs, et pourtant tellement doux et timide dans la vie. Et en parlant de cow-boy, l'homme qui dégaine les news plus vite que son ombre est avec nous cette semaine. Il s'appelle Didier Alouche et c'est parti pour son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous, je ne sais pas vous, mais à Hollywood, on est débordé en ce moment. Entre l'avant-première du Belfast de Kenneth Branagh lundi, la projection de la tragédie de Macbeth de Joel Cohen avec Denzel Washington mardi, celle de Nos âmes d'enfants, le nouveau Joaquin Phoenix mercredi, les yeux de Tammy Faye avec Jessica Chastain jeudi, vendredi c'est... Ah non, vendredi, on n'a rien, mais samedi, on en a deux. Being the Ricardos, le nouveau Aaron Sorkin avec Nicole Kidman, et je retourne voir Dune, projo à la Warner, en présence de Denis Villeneuve. Je vais pas rater ça, hein. Et la semaine prochaine, je crois qu'on a encore 7 ou 8 projections, sans compter les liens qu'on reçoit à la maison. Pourquoi une telle recrudescence de gros films sur les écrans d'Hollywood ? Une seule réponse, la saison des prix. Oui, c'est parce qu'on est en pleine période des récompenses que notre planning est autant bouclé. Ici, les professionnels font tous partie d'un syndicat ou d'une association qui remet des prix en début d'année. Il y a le syndicat des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, des monteurs, des maquilleurs, etc., etc., et des associations de journalistes de toutes sortes. Moi, je fais partie des Critics' Choice, une très sérieuse association de plus de 400 membres de la presse hollywoodienne venue de partout. Tous ces prix sont évidemment là pour paver la route vers les ultimes récompenses, les Oscars, qui n'auront pas lieu avant le 27 mars 2022. Mais tout le monde sait très bien ici que pour avoir sa chance, un film doit être vu entre le 1er novembre et le 15 décembre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Alors les projections se multiplient en ce moment et moi, je me régale. C'est le pied, un peu comme si on était au Festival de Cannes avec des gros films tous les jours, sauf que le soir, je rentre chez moi. Tiens, pendant que j'écris Céline, trois projections sont tombées dans ma boîte mail, celle du nouveau Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, celle de Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio et, oh joie, le nouveau Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Et après tout ça, on va faire la fête avec ces gens-là. Des réceptions avec l'équipe du film sont organisées après les projections pour nous convaincre de voter. Bien sûr, on n'est pas dupes, mais on s'amuse bien quand même. Lundi dernier, on s'est tous retrouvés après la projection de Belfast à une heure bien avancée de la nuit avec Kenneth Branagh et Jamie Dornan qui hurlaient des chansons irlandaises à tue-tête dans la salle de bal du musée de l'Académie. C'est donc un homme heureux qui vous parle, mais qui se demande quand même comment il va pouvoir trouver du temps pour écrire et enregistrer sa prochaine chronique. Bon, je vous laisse, je file en projo.
Merci beaucoup Didier, allez, bon courage avec ce planning de fou, et puis à la semaine prochaine surtout.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est Clap qui continue et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un acteur de grand talent, 34 ans de carrière, un prix d'interprétation à Cannes, un César du meilleur acteur, des rôles enchaînés comme un sans faux, des réalisateurs avec lesquels il a tourné plusieurs fois. Il est l'acteur préféré des figurants tant il a la réputation d'être sympa selon Xavier Beauvois. Bref, c'est un type bien qui est dans mon studio aujourd'hui. Merci beaucoup Benoît Magimel d'être là.
Merci de m'accueillir.
Alors aujourd'hui dans Clap, on parle de Amant, le dernier film de Nicole Garcia qui sort le 17 novembre, un triangle amoureux avec Stacy Martin et Pierre Niney. Et vous, bien sûr, c'est votre deuxième collaboration avec Nicole Garcia après Selon Charlie. Vous avez plaisir, j'ai l'impression, à retrouver souvent les mêmes réalisateurs.
Énormément, oui. Oui. C'est très gratifiant et puis travailler avec les gens qu'on aime, c'est mieux. Et,
c'est plus facile.
C'est plus facile, ouais.
Alors qu'est-ce que vous aimez dans l'univers de Nicole ?
J'aime sa manière de filmer les hommes, la manière dont elle en parle. Elle pose un regard bienveillant, autant sur nos, sur ce qu'on a de plus minable parfois aussi. Mais elle a toujours un regard de tendresse et elle les aime quoi profondément. C'est ça que j'aime son regard. Quand j'avais vu ses films précédents, c'est ce que j'ai remarqué le plus. On se sent aimé, on se sent désiré, on se sent sublimé par elle.
Comment est-ce qu'elle vous a présenté cette histoire d'amant, ces trois personnages ?
Oh, elle m'a rien présenté. On parle pas trop psychologie ou histoire. On lit la partition et puis après, avec elle, c'est un travail sur le plateau où elle est en permanence en train de chercher, changer d'avis. Elle a ce confort en fait de pouvoir de prendre son temps. Ouais, ouais. D'essayer de. Donc, faut arriver sans avoir trop d'idées. Je pense que c'est bien de se laisser guider par elle. C'est mieux.
Comment est-ce que vous travaillez en général vos rôles alors ? Est-ce que vous êtes plutôt instinctif ? Est-ce que vous intellectualisez beaucoup en amont ?
Je crois qu'on est tous, on a tous une part d'instinct assez grande hein, quand même. On peut intellectualiser, on peut mettre beaucoup de psychologie, on peut raconter des histoires, mais chaque rôle a finalement des choses un peu différentes. Moi je crois qu'il y a des rôles sur lesquels on doit, des rôles qu'on doit tirer vers soi. On travaille à partir de soi. Hein, c'est pas rentrer dans la peau d'un personnage, c'est lui qui rentre dans la vôtre. Et vous travaillez avec votre vécu, avec ce que vous êtes, avec votre matière. C'est difficile, par exemple, de composer ou de. On peut se raconter des histoires. Hein, on peut, ça m'est arrivé. On prend des notes parfois. On essaye de trouver un parcours, de s'inventer des choses, mais faut se baser sur la partition qu'on a. Ouais.
Alors je rappelle l'histoire de Amant. C'est celle de Lisa et Simon, donc Stacy Martin et Pierre Niney, qui est un couple qui s'aime, un couple qui s'est rencontré jeune, mais qui va devoir se séparer. Et puis quelques années plus tard, on retrouve Lisa qui est mariée à votre personnage Léo. Mais malheureusement, elle va recroiser la route de Simon. Et Benoît Magimel, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'oublie jamais son premier amour, finalement.
Oui, en plus, c'est un amour presque incestueux. Je ne sais pas, on a l'impression qu'ils sont frères et sœurs, ces deux-là. C'est des anges malheureux. Ils sont séparés. Et quand ils se retrouvent, en même temps, elle est prise entre l'amour qu'elle a pour cet homme qui lui a donné un confort de vie, un avenir en fait, et de retrouver cet amour d'enfance, c'est très compliqué pour elle. Donc elle doit essayer de choisir, mais c'est quasiment impossible.
Ça te plaît ?
Oui.
Tu as trouvé où ce gars ?
Dites-moi, vous savez conduire ?
Je dois aller demain matin à Zurich, un aller-retour dans la journée. Enfin, si vous êtes libre.
Oui ?
Oui.
Qui a dit que les sentiments sont toujours réciproques.
Qu'est-ce que t'as fait ?
Tu penses qu'un type comme ça, ça s'achète pas ?
C'est vrai qu'avec Pierre Niney, c'est un amour déraisonné, c'est cette folie qu'on peut avoir quand on est très jeune. Effectivement, avec votre personnage, ils ont un plan de vie, ils veulent adopter aussi.
En fait, il essaye de trouver, il sait que les choses... Enfin, elle est
il la veut
plus
à
jeune.
Tout prix quand même.
Mais il est éperdument amoureux d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui on connaît très peu de choses sur lui, mais il est conscient que elle pourrait lui échapper à tout moment. Donc il essaye de mettre en place une vie, un confort, notamment adopter un enfant justement pour l'ancrer dans leur vie, qu'elle ne lui échappe pas simplement. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec l'argent. Il pense que l'argent achète tout et peut régler beaucoup de choses. Voilà.
Et c'est vrai ce que vous dites, on connaît peu de choses de lui. Il a un côté très très doux, très très rassurant et en même temps très inquiétant. Il est fait de beaucoup de contradictions, ce personnage.
Oui, c'est ce qui est intéressant, jouer avec les contradictions. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui rend les personnages intéressants. Et c'est vrai qu'il peut être inquiétant. Et c'est ça qui est bon, c'est que vous n'êtes pas obligé de raconter tout d'un personnage. Vous pouvez ne pas y mettre spécialement de psychologie, de background, enfin de vie passée, et d'apporter tout sur le moment.
Il y a aussi beaucoup de solitude, en fait. C'est un film sur l'amour, sur tout ce que l'amour peut nous pousser à faire, mais c'est aussi un film sur trois personnes très isolées,
c'est
finalement
vrai.
Très seules.
C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont tous cette particularité. Même ensemble... On a l'impression qu'ils ne le sont pas.
et qui sont jamais complètement heureux, ils sont jamais complètement sereins. C'est aussi un film sur l'état de détresse dans lequel l'amour peut nous plonger.
Oui, absolument, absolument, un désespoir. Ce jeune homme, en fait, est obligé de s'exiler et il perd toute sa situation, toute sa vie et on le retrouve, il est démuni, il n'a plus rien. Alors qu'elle est dans
le personnage de Pierre,
ouais, elle est dans une situation très confortable et c'est très difficile pour un homme de se retrouver face à un autre qui lui a le pouvoir, a l'argent et donc on se sent forcément plus inférieur et donc c'est compliqué quand vous avez une femme entre les deux.
Et quel genre d'amoureux vous êtes, Benoît Magimel? Est-ce que vous êtes plutôt jaloux, possessif, confiant, attentionné?
Ouais, la jalousie, c'est mauvais. C'est pas bon, la jalousie.
Non, mais est-ce que ça va pas avec l'amour, finalement?
J'ai eu l'occasion de faire un film avec Diane Curis sur un homme amoureux, justement, et qui, je pense que ça, c'est un vrai amour. Je suis pas sûr d'être capable d'être aussi, de pouvoir tout donner, comme Léo. Mais ça donne envie d'être comme ça. Je crois que quand on aime, il faut penser surtout à rendre l'autre heureux. Donc, s'il est mieux avec quelqu'un d'autre, il faut l'accepter.
Vous pourriez faire ça?
Ça prend du temps. Je pense qu'il faut l'accepter, effectivement. Mais en fait, c'est difficile.
C'est difficile de voir laisser partir l'autre.
Ouais, ouais. Et puis voir surtout le bonheur. C'est-à-dire que vous le laissez partir et puis vous le voyez heureux avec un autre. C'est la chanson de qui déjà? Elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi.
Exact.
Ça dit quelque chose aussi.
Ça dit beaucoup de choses. C'est un film en trois actes, comme une pièce de théâtre avec une structure, une atmosphère différente. Vous, en tant que spectateur, vous avez ressenti quoi quand vous l'avez vu, Amant?
J'avais pas perçu l'aspect polar, l'aspect inquiétant, en fait. Tout ce qu'il y a de mystérieux. C'était pas aussi palpable, en fait, à la lecture. Et puis, on a construit aussi sur sa douleur personnelle, sur Léo. Oui, de le rendre plus affecté par cette jeune femme. Non, j'étais. C'est très beau les films de Nicole Garcia. Mmh. Hein, la lumière est toujours magnifique. Et oui, il y a quelque chose. Voilà, c'est le polar en fait que j'ai beaucoup aimé, beaucoup. C'est ça qui m'a tenu principalement en fait.
Et c'est vrai qu'elle aime ces acteurs et elle les filme très très bien.
Oui, c'est pour ça que c'est une chance.
Alors, une autre chance, un mot sur De son vivant, qui est un film qui sort la semaine suivante, le 24 novembre, un film d'Emmanuel Berco, encore une fois une réalisatrice avec laquelle vous avez déjà tourné, et qui vous a offert un film qui vous a permis d'avoir un César d'ailleurs, oui. La tête haute, et encore une femme réalisatrice. Quelque chose de particulier à tourner avec des femmes?
J'aime pas faire, et elle je pense aussi n'aime pas spécialement qu'on les mette dans une case de femmes. Elles sont des réalisatrices, réalisateurs, cinéastes avant tout. Mais il est vrai que pour un homme, c'est plus simple. On se sent peut-être plus aimé, plus facilement, je sais pas. On est plus en confiance peut-être, directement. Il n'y a pas de possible rivalité ou de...
La communication plus facile peut-être.
Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de tendresse. En tout cas, c'est le rapport que j'ai avec elle.
De son vivant, juste un mot sur ce film qui est un film dont on reparlera sur Europe 1, mais qui est un sujet grave, puisque c'est un film qui parle de la maladie. Votre personnage est atteint d'un cancer incurable et il doit dire au revoir à sa mère, interprétée par Catherine Deneuve. Il y a des rôles comme ça dont on ne sent pas indemne, je suppose?
Si, on en sent indemne. Non, c'est un film en fait que j'ai vécu de deux manières différentes. Le début de tournage a été fait un peu plus dans la douleur, dans l'introspection. C'est difficile justement de rentrer là-dedans. Et puis la deuxième partie a été faite au contraire dans la lumière. Et c'est ça, ce film, c'est mourir de son vivant. C'est une phrase qui veut dire beaucoup. Et c'est un film qui est plutôt lumineux, qui vous explique, qui vous apprend simplement à pas avoir peur et surtout à profiter des instants La vie est importante, chaque moment est important, et de resituer vos priorités un peu, c'est ça que j'ai aimé. En tout cas, ça fait changer, on regarde les choses autrement.
Alors après avoir vu Amant aussi, finalement, on regarde aussi les choses autrement, parce qu'on se rend compte aussi des travers de l'amour, l'amour qui peut nous porter comme l'amour qui peut nous détruire totalement.
Absolument, c'est pour ça que c'est toujours dangereux de succomber à l'amour. Il y a toujours un risque, c'est une prise de risque à chaque moment. Et je crois que quand on a aimé, quand on a déjà vécu et souffert, on vit autrement les choses. Je me souviens de Musset qui disait que on peut aimer qu'une seule fois, éperdument, totalement, et qu'après c'est autre chose, voilà. Après on est plus raisonnable, on prend des précautions.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je pense que oui. En fait, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, mais voilà, c'est comme les preuves d'amour sont plus importants. Je crois qu'il faut un peu de maturité. Je pense que l'amour de la passion, en fait, c'est très destructeur. Si vous aimez passionnément, c'est ce qui arrive le plus souvent la première fois. Si vous repartez dans la passion, c'est dangereux. Ça reste dangereux. Il faut être un peu passionné, un peu raisonnable, un peu de tout. Il faut un équilibre.
Je suis bien. Pour que ça dure, en tout cas.
Oui, pour ça dure. Et puis, il faut pas tout brûler tout de suite.
Alors, quelle est la plus belle chose que vous ayez faite par amour?
Je pourrais pas répondre là comme ça dans l'instant.
Mais je suis sûr qu'il y en a eu plusieurs.
J'ai eu
cas.
La chance, en tout cas, d'avoir eu.
D'avoir vécu ce grand amour.
Ouais. Je le vis déjà. C'est bien.
En ce moment.
Absolument.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours sur Europe 1 à l'écoute de Clap et mon invité cette semaine est le comédien Benoît Magimel à l'affiche d'un triangle amoureux mercredi 17 novembre à Mans aux côtés de Pierre Ninet et Stécie Martin. Alors Benoît, votre carrière a commencé tôt, je le disais, à l'âge de 13 ans avec le film d'Étienne Chatiez, La vie est un long fleuve tranquille, ce rôle de Momo Groseille. Vous rêviez de quoi à cette époque?
De liberté. Je rêvais d'être libre avant tout. Et je cherchais un moyen de le trouver. De trouver cette liberté absolument.
C'est le cinéma qui vous a permis de la trouver?
Ouais. Je me suis dit très vite, c'est un moyen intéressant pour pouvoir trouver ça.
D'être libre et puis de vivre mille vies, finalement.
Oui, de décider, de choisir ce qu'on veut, ce plus facilement. Je rêvais déjà d'avoir le pouvoir de me télétransporter. Ça, c'était quelque chose de que je rêvais absolument, de pouvoir me voyager en un claquement de doigts. Ça, c'était pour moi la plus grande liberté. Mais oui, cinéma, c'était formidable. En fait, c'est tout ce qu'il y avait à côté qui me plaisait. J'aimais bien les hôtels, les défraiements.
le luxe, confort.
Ouais, c'est ça.
Plus en fait, que
tout,
le luxe.
Tout ça était des choses qui me faisaient vraiment kiffer. Ouais.
Bah, en même temps, à 13 ans, ça se comprend. Est-ce que vous vous souvenez de votre première grande émotion au cinéma?
Oui, je me rappelle, c'était sur un film Les années campagne avec Charles Aznavour.
Dans lequel vous jouiez?
Ouais, bien sûr. Ah oui, c'était ça la question, mon émotion de cinéma.
Non,
d'accord.
Mais ça peut être les deux. Ah, votre oui. émotion à vous aussi tant qu'acteur.
Ah bah c'était Charles Aznavour qui jouait mon grand-père.
C'est l'un de vos premiers films, vous étiez jeune à l'époque.
J'avais 16 ans, ouais. C'était merveilleux, mais je disais au revoir à mon grand-père et puis submergé par une émotion. On a une vision un peu romantique des choses. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et ça m'a fait penser à mon grand-père, certainement. Mais une émotion de cinéma, ça avait été, je crois, Champion. C'était pas mal, ce film sur la boxe où un enfant perd son père sur le ring. Et tout ce qui touchait aux histoires d'un père et d'un fils, c'était très ému à chaque fois.
Ouais. Encore maintenant?
Moins.
Votre meilleur souvenir de cinéma?
Il était une fois dans l'Ouest.
Ouais, Sergio Leone, classique.
Ouais. Musique, images. C'était incroyable. C'était vraiment, c'est du spectaculaire. Et puis de l'émotion aussi.
La musique aussi, des New Morricone, les grands acteurs.
Oui, c'est ça.
Et en même temps, le western, ça, je crois que ça fait rêver tous les...
C'est ça.
Tous les garçons. Vous avez déjà tourné dans un western? Je crois pas.
Non.
Pas vraiment.
Pas le vrai western.
Pas le vrai.
Non,
c'est... Vous aimeriez?
Ah, j'aimerais beaucoup, ouais.
La prime pour la capture de cet homme est de $5,000. Un certain Judas a trouvé que $30, c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Ah, c'était à l'époque, j'allais souvent au Studio Galant voir The Rocky Horror Picture Show. Il y avait une animation souvent faite par un groupe de passionnés où il y avait une interaction avec le film. Et puis oui, quand il pleuvait, ils lançaient de l'eau, on avait des parapluies. Quand c'était le mariage, on lançait du riz. Et puis ils jouaient avec l'écran, c'était incroyable.
C'était très interactif. Ouais. Vous n'êtes pas le seul à nous parler de Rocky Horror Picture Show pour la séance de cinéma la plus dingue. Le film qui vous fait le plus rire?
C'est qui m'a fait énormément rire, c'est Black Edwards avec John Ritter. C'est L'amour est une grande aventure. Je recommande ce film, c'est vraiment c'est très drôle.
Qu'est-ce que vous aimez?
Bah, je me souviens, j'étais jeune et ça m'avait fait rire. Il y avait une scène, si vous voulez, où en fait c'est un homme qui essaye de remonter le fil de ses amours, donc il retrouve toutes les femmes de sa vie et il en retrouve une qui est d'accord pour refaire l'amour et elle lui donne des préservatifs que son mari a achetés. Il se trouve que c'est des préservatifs phosphorescents. Et donc vous avez une scène entre le mari et l'amant dans le noir, avec deux carottes comme ça, de chaque couleur, qui se courent après. Ça m'avait fait énormément rire. Là, il est très très drôle.
Bordel !
Quoi ?
Qu'est-ce que c'est ?
Quoi ?
Ça !
Oh, marre !
Amy, ça devait être une surprise. Et ils étaient ici, dans ce tiroir.
Oh, parce que tu crois que je les ai prises et que...
Non, non, je crois qu'elles sont sorties en volant avec leurs petites ailes.
Écoute, elles sont à toi, ces capotes, alors prends-les, fous-moi le temps !
Ça va ! Ça va ! Parfait ! Parfait, mais tu... Connasse, tu sais pas ce que tu rates.
Black Edward, c'est très drôle. Mais c'est pas la comédie romantique...
Ouais, je sais pas, moi, vous me parlez de...
Basique.
Ouais, comédie romantique,
est-ce
c'est quoi?
Est-ce que vous
c'est
aimez
Love
les
Actually, oui. C'est ça.
Oui, ça en est une.
Ouais, c'est ce genre de film, oui, c'est des feel good, quoi. Moi, j'aime bien Out of Africa,
ah,
les
oui,
grandes
ça,
histoires
c'est
d'amour.
Bien, ouais. Très grande et ok. Mais vous êtes un romantique, alors?
Ça me touche. L'histoire d'amour impossible au cinéma sont les plus belles, je crois.
Dans la vie aussi, c'est celle qui fait le
sourire. C'est mon marrant, ouais. C'est mon marrant.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Ah, un western. Ouais, ouais, western, définitivement.
Ben pourtant, vous seriez en danger.
Justement. Dans, il est une fois dans l'Ouest, vous avez quand même Claudia Cardinal.
C'est vrai.
Qui est juste sublime, donc ça vaut le coup. Jason Robard, c'était incroyable. Henri Fonda.
Mais oui, quels sont les acteurs qui vous ont fait rêver?
Tous ces acteurs de western que j'ai pu voir, ouais. Ça, c'est vraiment un genre qui me plaisait énormément. Bruce Lee aussi.
Oui.
J'ai beaucoup aimé les films de Bruce Lee. Et puis, les acteurs français comme Jules Berry, comme surtout Michel Simon. Quand on cherchait des références, j'entendais toujours les jeunes acteurs parler des Américains. L'acteur studio, De Niro, Pacino. Et c'était un peu loin de ma culture, en fait. Et quand j'ai découvert Michel Simon, je me suis dit, mais regardez, on a l'acteur studio en France depuis longtemps.
On a aussi bien, ouais.
Boudu sauvé des eaux, c'est extraordinaire. Magnifique. On a l'impression d'être dans un documentaire. C'est tellement moderne et vraiment, c'est important d'aller chercher un peu dans son histoire.
Qui vous a fait découvrir le cinéma?
C'est la VHS, c'est le vidéoclub. Mon frère et moi, on avait une carte, vous savez, qu'on poinçonnait.
Ouais.
Et on allait
c'était
tous
la
les
belle
week-ends.
Époque, quand même.
Ouais, ouais. C'est la VHS. J'allais très peu au cinéma et. Mais alors le film, le magnétoscope, ça a été extraordinaire. On en mangeait toutes les semaines.
Alors justement, est-ce qu'il y a un film que vous regrettez de ne pas avoir découvert dans une salle de cinéma?
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. À une époque, j'avais une salle qu'on me prêtait et j'ai fini par organiser une sorte de ciné-club. On avait fait 3 projections. On avait fait Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville. On avait fait L'Arnaqueur de Robert Rossen. Avec Paul Newman, et on avait fait justement Les Petites Voix dans l'Ouest. Voilà. Il y a beaucoup de films, tous ces grands, grands classiques, en fait, que j'aimerais découvrir au cinéma, quoi. Mais il y en a beaucoup.
Le film que vous conseillez à un enfant?
Qu'est-ce que je peux conseiller? E.T. C'est ce que j'avais vu à l'époque.
Et pourquoi E.T.? Qu'est-ce qui vous a touché à l'époque?
Parce que il y a tout dedans, je crois. C'est le rêve, s'échapper de son réel. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une liberté, une forme de liberté énorme. Et puis, il y a des émotions.
E.T. Maison téléphone.
E.T. téléphone à sa maison.
E.T. téléphone à sa maison.
E.T. téléphone à sa maison.
Il veut téléphoner chez lui.
Et l'amitié, la différence, c'est
l'amitié,
vrai qu'il y a tout.
Ouais. Les films d'amitié m'ont toujours plu. Peut-être même encore plus que les histoires de filiation.
Mais c'est important pour vous, l'amitié.
Ouais.
Vous avez des amis fidèles aussi dans ce métier.
Oui, j'en ai eu quelques-uns. Ouais. Ça a pris du temps, mais j'en ai aujourd'hui. Ouais.
Qui, par exemple? C'est quoi votre bande de cinéma?
J'ai surtout eu un grand parcours avec Florent Emilio Siri. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait découvrir le cinéma et qui m'en a parlé, qui m'a raconté un peu, qui m'a parlé de mise en scène, qui m'a parlé de films. Donc on a découvert beaucoup de choses. Il m'a fait voir beaucoup beaucoup de films. Et moi, en retour, on échangeait sur le métier d'acteur. Voilà, c'est vraiment formidable de pouvoir avoir cet échange possible. Et puis il me parlait souvent d'initier des projets, genre de choses, d'acteurs qui proposaient à des metteurs en scène. Et un jour, je lui ai proposé de faire L'Ennemi Intime. J'avais rencontré Patrick Rothman qui venait de faire un documentaire, L'Ennemi Intime justement. Et je lui demande s'il était, il avait envie de faire un film de cinéma. Puis je les ai mis en relation, on a trouvé un producteur, on a pu faire le film. Ça, c'était une grande fierté pour moi.
Mais c'est ça aussi une grande carrière, hein, c'est de savoir s'entourer, c'est d'avoir des c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, vous retrouvez souvent des réalisateurs avec lesquels vous êtes en confiance, comme ça qu'on se construit.
Oui, et en même temps j'avais très peur moi des familles de cinéma parce que ça voulait dire qu'on vous fermiez d'autres. Et c'est pour ça que pendant longtemps je voulais pas m'exposer, parler de moi, pour qu'on puisse plaquer ce qu'on voulait, que voilà, on sache pas trop ma personnalité pour voilà, pour pas fermer des portes. Un jour, j'ai fait un casting pour un film et j'ai pensé à un ami acteur et je me suis dit j'ai une réflexion que finalement je déteste, c'est non, le connaissant sa personnalité ne va pas avec le rôle. Voilà. Alors, si j'ai eu cette réflexion, je me suis dit bah tout le monde,
quelqu'un peut l'avoir pour moi aussi.
Donc, vous voyez, faut être très prudent avec ça.
Le film que vous avez le plus vu dans votre vie, ou est-ce qu'il y a un film que vous revoyez sans cesse?
Le Trou de Jacques Becker, un film que j'ai beaucoup vu. Les westerns, Les Toutes les Fois dans l'Ouest, je crois que je le vois régulièrement. Les Bruce Lee, j'en vois de temps en temps. Les films avec Louis de Funès, j'aime bien regarder.
Ah oui, mais c'est ça, quand même. Généralement, c'est vrai que Louis de Funès, c'est
Bourville.
Le film qu'il faut le revoir de temps en temps, est obligé.
Ouais, ouais. Bourville, Louis de Funès, les grands films, ou les films de Verneuil aussi. Les films de Gabin, les films de Ventura.
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Hein ? Mais dites donc !
Ah, ben là, ça va mieux.
Mais on a l'impression quand même, dans les films de votre vie, qu'il y a plus de films, est-ce que c'est le mot, mais plus dark que des comédies très légères. Bon, vous avez dit Louis de Funès quand même et Bourville, mais...
Ouais, mais non, C'est une fois dans l'Ouest, pour moi, c'est un film solaire. C'est des yeux bleus dans le désert, c'est beau.
C'est vrai.
C'est très esthétique, en fait. Non, c'est très beau, c'est pas très sombre. J'aime pas les univers glauques. Hein. J'aime le noir et blanc, mais j'aime le cinémascope, en fait. Pour moi, c'est ça le cinéma, c'est large, c'est visuel, c'est large, c'est grand.
La bande originale qui vous a le plus marqué, ou une bande originale qui vous transporte?
Bon, il y en a plusieurs, mais récemment, il y a les films de Nolan, il y a Interstellar, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Time, qui je crois, dans la bande originale du précédent, c'était quoi déjà?
Hans Zimmer,
j'adore, ouais, c'est ça, mais c'était le film avec Sammy DiCaprio, là, Le Monde à l'envers.
Time. Ah, Inception.
Inception, ouais. Time, c'est un morceau que je me suis mis en boucle. C'est juste des nuances, c'est incroyable. Je trouve ça très très beau. Sinon, il y a Sergio Leone.
Ah bah oui, la musique d'Ennio Morricone.
Voilà, c'est John Barry qui a fait Out of Africa, je sais plus.
Oui.
Voilà, bon, il y a des grands, il y a des seigneurs. Il y a Schifrin, il y en a plein, il y a Bernstein, il y en a plein.
Vous écoutez beaucoup de musique ?
Oui, énormément. La musique, c'est un moteur, je vais vous dire. Ça me permet de me lever le matin, ça me permet de me bouger, de vivre des émotions. Et oui, ça m'accompagne beaucoup. Ouais.
Quel genre de musique ?
Pas mal de choses, mais je suis dans ma période cubaine en ce moment.
C'est vrai ?
Ouais, j'aime bien jouer des percussions depuis longtemps. Et en ce moment, je retrouve le plaisir justement d'écouter les Fania All-Star, les Johnny Pacheco... J'ai eu l'occasion de croiser Bernard Lavilliers qui avait fait un album extraordinaire justement avec Ray Barreto entre autres qui s'appelait La Salsa, c'était super ce morceau et voilà, découvrir la Fania All-Star, c'est formidable.
Alors vous savez quoi, vous allez réfléchissez à une chanson, vous allez la choisir, on va l'écouter dans quelques instants. Je rappelle juste la sortie de Amant mercredi prochain le 17 novembre au cinéma. Vous jouez aux côtés de Pierre Ninet et Stacy Martin et vraiment c'est un très joli film de Nicole Garcia sur un triangle amoureux. Merci beaucoup Benoît Magimel. Dans quelques instants on parlera de l'actualité du cinéma, mais tout de suite donc on écoute
Cheo Feliciano avec les Fania All-Star, ça s'appelle El Raton.
Alors c'est parti, à tout de suite sur Europe 1.
Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse. hace sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón.
Sur Europe 1, Fania All-Star, Cheo Feliciano et Santana. C'était le choix de mon invité Benoît Magimel qui était là il y a quelques instants et qui nous permet de danser et d'être de bonne humeur. Et la bonne humeur continue sur Europe 1.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, l'émission qui vous parle cinéma chaque samedi. Et cette semaine, c'est Cannes qui rythme les sorties. La majorité des films que vous pourrez découvrir au cinéma ont le label du prestigieux Festival de Cannes. Alors, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, autour de la table avec moi, Victor Bonnefoy et Franck Vallière. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Toujours un plaisir de vous revoir.
On est toujours là.
Et je suis très contente que vous soyez là. Alors, avant de parler des films, on va juste regarder le box-office sans surprise. Les Éternels débarque à la première place du box-office avec 775 000 entrées en une semaine.
Ouais. C'est étonnant, c'est diablement étonnant.
Très beau donc démarrage pour ce nouveau Marvel. En deuxième position, c'est l'inamovible James Bond avec 276 000 tickets vendus. No Time to Die a donc attiré à ce jour 3 613 000 spectateurs en 5 semaines. Voilà, donc ça c'est très bien. Et puis à la troisième place, Venom, donc encore un Marvel, avec 226 000 entrées et des poussières qui devancent d'un cheveu quand même Le Loup et le Lion, 226 000 entrées, 54 cette semaine. C'est le film de Gilles Demestre qui a donc séduit depuis un mois presque 1 million de petits et grands spectateurs et je suis très contente pour lui.
Ouais, tout à fait, Gilles Demestre, c'est le genre de réalisateur qui n'est pas forcément très connu par le grand public, mais chacun de ses films dépasse le million d'entrées. Son précédent avait fait 1,4 million. Félicitations à lui.
C'était Mia et le Lion Blanc.
Exactement.
Voilà. Et qui détient la tête du box-office, que des suites, que des trucs qui s'appuient sur des socles de spectateurs déjà, c'est intéressant.
C'est vrai, Les Éternels, James Bond, exact. Alors, bonne réflexion Franck Vallière.
On n'avait pas dit qu'on parlait de bons films, pourquoi on parle des Éternels là, c'est compliqué.
Bon allez, place au film à découvrir dans les salles. Elle a fait chanter tout Cannes en juillet dernier et elle fait chanter toute la France depuis mercredi au cinéma, ça a démarré très très fort. C'est Valérie Lemercier avec Aline, le vrai faux biopic sur Céline Dion qui est enfin dans les salles. Les concerts, la famille, les strass, les paillettes, les chansons, mais surtout la double histoire d'amour de Aline Dieu avec sa maman et avec son manager Guy Claude. Valérie Lemercier est époustouflante dans ce rôle qu'elle incarne de ses 5 ans à ses 50 ans.
On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer.
C'est la révélation au Québec de piano. Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour, puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé.
Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
Oh là 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 là, je pourrais chanter pendant des heures. C'est quoi votre chanson préférée de Céline Dion à tous les deux?
Aucune.
Oh. Ah, moi c'est Pour que tu m'aimes encore. En fait, c'est surtout tout l'album écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Dès qu'il y a Jean-Jacques Goldman à l'intérieur, je suis ravi.
J'ai compris, merci.
Ah, on va faire une soirée karaoké, Laurie, dites donc.
Alors, Victor Bonnefoy, vous en avez pensé quoi?
Eh ben, j'ai plutôt aimé Aline, qui est un film qui, mine de rien, a grandi en moi parce que je l'ai vu il y a quelques semaines et j'y ai pas mal repensé. Cette histoire d'amour, cette manière que Valérie Lemercier a de prendre à bras le corps l'histoire de Céline Dion, mais d'y mettre un peu d'elle à l'intérieur, quelque chose d'absolument passionnant et de vraiment touchant. C'est-à-dire, le film nous amène aux larmes quelquefois. Alors, moi, je reste en dehors sur quelques aspects, notamment je trouve que les scènes de concert manquent parfois d'ampleur en termes de mise en scène, sachant qu'on a eu des biopics comme Bohemian Rhapsody, que j'aime moyennement, mais Bohemian Rhapsody, ou même surtout Rocketman d'Elton John, où il y avait de l'ampleur sur les scènes musicales.
Là, surtout qu'elle a fait de très grosses scènes.
Exactement, et là je trouve pas, ça, des fois un peu plan-plan, quoi, c'est toujours filmé de loin.
C'est pas le même budget non plus, même si le film a coûté 23 millions d'euros.
Et je crois que c'était pas son sujet. Je crois que vraiment, elle s'est concentrée sur l'histoire d'amour.
Mais après, c'est pas tant une question de budget que de décider qu'au lieu de laisser la caméra en plan fixe, on peut la faire bouger un petit peu. Mmh. Ça coûte pas plus cher, ça coûte juste des bras.
Non mais ce qui serait vraiment intéressant, parce que moi qui ne nourris aucune passion pour Céline Dion,
on a remarqué.
Non mais ni aucune aversion, soyons sérieux. Son parcours est extraordinaire. Ce qui serait véritablement intéressant, c'est de savoir ce que elle en pense, parce que le film agit comme un miroir déformant. C'est-à-dire que c'est un conte de fées, mais ce conte de fées, Céline Dion, elle le vit réellement. Donc du coup, c'est comme quand on se regarde dans une glace, on voit son reflet, mais ce n'est pas soi. Pour moi, il y a beaucoup d'ironie partout qui se love, mais pas de cynisme. Et du coup, je serais très curieux de savoir ce qu'elle en a pensé, parce que c'est un conte de fées.
Je crois que Valérie Lemercier d'ailleurs a très envie aussi que Céline Dion voit le biopic.
Oui, tout à fait, mais d'ailleurs, je pense qu'on pourrait avoir une pensée pour Céline Dion, et là je suis totalement premier degré, qui vit une maladie pas simple en ce moment, qui paraît-il est alitée et a beaucoup de mal à se déplacer. Que le film sorte dans ce contexte-là, ça permet de rappeler que mine de rien, et c'est montré dans le film, ce genre de star-là, bah, ça demande des efforts physiques qui sont d'une difficulté absolue, et on en paye les conséquences parfois beaucoup plus jeunes, et Céline Dion a l'air d'être en train de faire face à ce genre de choses-là, et personnellement, moi qui l'aime beaucoup en tant qu'artiste, je lui envoie beaucoup d'amour.
Et on espère que cette personnalité hors sol n'est pas sous fentanyl comme Prince ou Michael Jackson.
Oh là là.
Et je crois que le public aussi lui envoie beaucoup d'amour.
Très étonnamment, j'ai trouvé ça très touchant, amusant, drôle.
C'était bouleversant, je trouvais que c'était émouvant et en même temps c'était très vrai.
Quand on m'a dit un film sur Céline Dion avec Valérie Lemercier, j'ai pensé à une blague, mais en fait c'est vraiment un merveilleux biopic, même si c'est librement inspiré.
Et voilà, il a tout dit. Merveilleux biopic, librement inspiré. Autre sortie dans un autre registre, Goodman de Marie Castille, mention char, un film coup de poing sur la transparentalité. Noémie Merlant incarne Benjamin, un homme né dans un corps de femme qui veut fonder une famille avec sa compagne Aude, jouée par Soko, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et donc il décide, Benjamin, de porter lui-même le bébé puisqu'il n'a pas été au bout de sa transition et qu'il n'a pas encore subi d'opération.
Porter un enfant, c'est considéré de manière universelle comme étant le symbole de la féminité.
Si ça marche, comment tu vas vivre ça?
Je sais pas où on va, moi non plus. Je sais pas comment les gens vont réagir. Je sais pas comment moi je vais réagir.
Là, dans la loi, là, moi, je suis rien.
On s'en fout de la loi. Tu seras sa mère. Tu es sa mère.
T'as choisi d'être un homme, Ben. Un homme!
Mais j'ai pas choisi. Quand est-ce que tu comprendras que c'est pas un choix, putain?
Franck Vallière.
Écoutez, grand film populaire sur une ultra niche, on va dire, pour simplifier. C'est très important de faire ce genre de film parce que Marie Castille, mention char, n'est pas Jean-Paul Sivirac. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de débilité autoriste, elle a la débilité de vulgariser un propos, de s'attacher à des faits divers, car c'est basé sur une histoire vraie. Et en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que elle dépeint ce qu'est une relation amoureuse. Et au final, on oublie presque que c'est une femme qui joue un homme et toute cette histoire de transparentalité devient juste une histoire d'amour.
Universelle.
Alors, certes, un peu jouée uniquement par des gens dont c'est la hype d'être, gay-friendly, Noémie Merlant qui est de plus en plus incroyable. Noémie Merlant, j'adore sa discrétion et par ailleurs, à chaque fois qu'elle est à l'écran dans le Audiard la semaine dernière, elle est très très bien. Et
alors il y a eu quand même la polémique que le rôle soit donné à une femme au lieu d'être donné à un acteur trans, mais c'est vrai que quand on voit sa prestation, on oublie tout ça.
C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se décider aussi à employer la meilleure personne pour un rôle et pas simplement une histoire de quota non plus tout le temps. Voilà. Donc ça reste très populaire, c'est très vibrant, on est avec eux au sens donc masculin
couple.
Et féminin au sens large, on est avec eux et elles et on est avec tous ces gens-là et c'est un grand film populaire qui a le mérite de vulgariser quelque chose qui existe et qu'on ne montre pas assez et surtout de manière populaire.
Et une souffrance aussi. On va écouter ce que vous en avez pensé.
Super Amy, Noémie Merlan, déjà je l'aime beaucoup en temps normal, mais alors là, chapeau. Hein.
J'ai été assez émue, assez troublée, et on ne peut ressortir que de ce film en se posant un milliard de questions auxquelles on n'est peut-être pas obligé d'amener forcément de réponse immédiatement, mais voilà, moi ça m'ouvre le cœur, ça m'ouvre l'esprit, ça me laisse un peu en suspens.
Et puis rapidement, on va aussi parler du nouveau film de Nanni Moretti, Trépiani, qui était en compétition à Cannes cette année. L'adaptation d'une histoire mélancolique qui se passe dans un immeuble sur plusieurs années, sur plusieurs étages, sur plusieurs familles. C'est une chronique de vie.
Salut papa.
Salut ma puce. Maman va pas tarder, on se voit tout à l'heure. Merci Renato.
Je t'en prie.
Quand je suis comme ça, toute seule, j'ai peur de tout.
Lucia.
Charlotte, salut, qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venue pour voir mon grand-père.
L'autre jour, chez moi, il y avait un oiseau à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il voulait quelque chose.
Victor Bonnefoy.
J'attendais beaucoup le nouveau Nanni Moretti et c'est peu dire que c'est un film laborieux. C'est un film laborieux en termes de narration parce qu'il veut raconter trois histoires qui ont du mal à s'entremêler. C'est un film laborieux parce qu'il veut diriger des comédiens de différentes générations qui ont du mal à cohabiter ensemble. C'est un film qui pourtant a une efficacité dès sa scène d'intro où une voiture va littéralement se crasher dans un immeuble et tuer quelqu'un et on se dit oh, on part dans un film qui va sûrement nous plaquer au mur et malheureusement on reste un petit peu à la porte à plein d'instants avec
quand même toujours l'humanisme de Nanni Moretti.
Tout à fait, ces grands questionnements sur la place de l'homme dans la société italienne, sur la place de la femme dans la société italienne, sur comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Mais malheureusement, des fois, il faut réussir, quand on vit ensemble, à conclure des histoires. Et Nanni Moretti a bien du mal à conclure ces histoires qui partaient pourtant si bien.
Et votre avis alors?
C'est très prenant, c'est assez particulier puisque c'est trois histoires qui s'entrechoquent. Au final, c'est vraiment très émouvant.
Le film est long et j'ai l'impression qu'il n'est pas achevé non plus. Toutes les histoires se terminent un peu rapidement.
J'ai bien aimé, hein, c'est très bien joué, très bien interprété. Ça montre un peu l'individualité de toute la société actuelle.
Voilà, des avis mitigés. Et puis bien sûr, j'en parlais en début d'émission, Cry Macho, le nouveau film de Clint Eastwood. C'est un film européen, Victor, très rapidement.
Ah, très rapidement, c'est un film à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont réalisés par des hommes de 91 ans, mine de rien. Et c'est un film qui a tout, les qualités, les défauts d'un film d'une personne de 91 ans. Mais c'est un film qui reste pourtant très important dans la carrière d'Eastwood.
Alors sachez également que le livre de Guillaume Évin, Clint Eastwood, Le dernier des géants, est disponible et revient sur la carrière étonnante de Clint. Merci à tous les deux. Franck Vallière, Victor Bonnefoy,
bon
on se retrouve. Bon week-end.
Très
on se
bon
retrouve.
Week-end à vous.
Mais oui, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Très belle journée à vous à l'écoute d'Europe 1. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Europe 1.
Clap. Laurie Choléva.